Qui dit dimanche, dit aussi 1er avril. Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Comment allez-vous, Monsieur Page?
Ça va bien, Mathieu.
Écoute, poisson d'avril, il doit en avoir quelques-uns quand
oui,
même
effectivement,
dans ton rayon d'activité.
Et puisque tu me tends la perche comme ça, je vais t'entretenir aujourd'hui du plus célèbre poisson d'avril associé aux phénomènes paranormaux dont on parle encore aujourd'hui. Et la plupart des gens ne savent pas encore que c'est un poisson d'avril, même si ça fait quand même 60 ans.
Ce sera notre plat de résistance.
Oui, absolument.
Pour faire un mauvais jeu de mots avec le poisson, là, quand même. On est au mois d'avril, les éphémérides d'avril dans le monde du mythe et complot, dans le paranormal. Quelques-unes de ces histoires, entre autres, commençons par Armando Valdez.
Voilà, parce que le mois d'avril est un mois qui a été plutôt fertile en événements mystérieux et étranges. Et tout le long du mois, je vais t'entretenir de ces histoires. Et l'une d'entre elles, qui continue de rebondir un peu dans le milieu des ovnis, et tu vas comprendre, elle est assez mystérieuse parce qu'on n'a pas tout à fait le fin mot de l'histoire.
Okay.
Alors, on se ramène un peu dans le temps. On est le 25 avril 1977. On est en début de nuit. Alors, il y a un petit contingent de 8 soldats militaires qui sont en fait à la frontière du Chili et du Pérou, dans les Andes, tout près d'un petit village qui s'appelle le village de Poutré. Ils sont donc là. En fait, on s'entend bien, là, c'est un contingent de 8 soldats, mais ils ne sont pas armés, on ne défend rien. Ils protègent une écurie. Donc, tu vois, genre, il y a un peu de bétail, il y a une écurie. Donc, les soldats sont là. Et puis, vers les 4 heures du matin, à peu près, l'un de ces soldats va réveiller le caporal Armando Valdez, qui est un peu le chef de section, pour lui expliquer qu'il voit quelque chose d'étrange. Donc, les hommes sortent. On se comprend bien, on est 8 soldats, on s'installe. Et là, on voit une espèce de lumière qui se situe entre le contingent militaire et le haut de la colline. Une espèce de lumière qui scintille et qui brille. Donc, les gens regardent ça depuis un moment. Ils expliquent à Valdez qui, lui, s'était endormi en début de soirée. On lui dit, cette lumière-là, elle est là depuis un bon moment. Et les hommes ont allumé un petit feu de camp et Valdez conclut que cette lumière doit être attirée par les reflets, le rougeoiement du feu de camp. Alors, il dit à ses hommes, vous allez me mettre une couverture là-dessus pour voir ce que ça va faire. Et comme les hommes se préparent à faire la manœuvre, la lumière en question descend, semble dévaler la colline et elle va s'arrêter à peu près à 500 mètres du groupe militaire. Et là, quand on parle d'une lumière, c'est pas n'importe quelle lumière, elle fait 25 mètres de diamètre.
Quand même, elle est à flanc de montagne.
Elle est à flanc de montagne. Okay. Donc là, ils ont l'impression de voir une espèce de grosse sphère lumineuse qui jette des éclairs. Et là, je te rapporte bien ce qu'eux ont raconté. Je n'y étais pas. Et tu vas voir ensuite qu'il y a un peu de problématique autour du récit. Mais ce qu'ils racontent, donc cette lumière arrive, elle s'immobilise à peu près à 500 mètres du groupe. C'est une immense sphère lumineuse de 25 mètres de diamètre qui semble jeter des éclairs de tous bords, tous côtés. Elle a une teinte un peu violacée. Et là, alors qu'ils regardent, les gens sont terrifiés de voir cet objet. Ouais. Et Valdez décide de prendre, lui, un peu le contrôle de la situation, puisqu'il est le chef de section. D'abord, il crie en direction de la lumière. Il dit « Identifiez-vous, hein, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un? » Et il décide de faire quelques pas en direction de la lumière. Et là, il disparaît littéralement aux yeux de ses hommes.
Pas la lumière, mais lui.
Lui disparaît. Alors, les hommes restent là, immobiles. Ils croient, ça c'est assez étonnant, mais ils croient que Valdez s'est éloigné pour essayer de prendre la lumière à revers, pour voir ce qui se trouve derrière. Donc, ils vont rester là pendant quelques minutes. Et comme rien ne se passe, ils appellent leur chef de section, pas de réponse. Et là, on commence à se demander où il est. Et voilà que Valdez semble soudain ressortir de la lumière, ou à tout le moins, il réapparaît aux yeux de ses hommes. Il tombe à genoux, il tient un langage un petit peu incohérent, on ne comprend pas trop ce qu'il dit. Alors, on l'amène vers le camp, on s'éloigne donc un peu à reculons de cette lumière, qui finalement va remonter vers la colline et disparaître. Pendant ce temps, Valdez semble pris de convulsions, il marmonne des choses incompréhensibles. Il est disparu aux yeux de ses hommes pendant une quinzaine de minutes. Mais ce que ces hommes constatent, c'est que Armando Valdez, qui était fin rasé du début de la soirée, a maintenant une barbe qui fait une barbe de 5 à 10 jours.
Bien, voyons.
Sa montre, on est le 25 avril, sa montre, le datamètre de sa montre, marque maintenant le 30 avril. Valdez aurait fait ce voyage d'une quinzaine de minutes dans la lumière, mais c'est comme si cinq jours se seraient écoulés. C'est là que l'histoire devient un peu plus nébuleuse. Après ce récit-là, le contingent militaire sera encadré par les forces armées chiliennes. Ils seront interrogés. Valdez sera éventuellement transféré à Santiago du Chili pour y être interrogé plus activement par les forces militaires. Certains rapports psychologiques ou psychiatriques font état d'un homme qui aurait souffert de schizophrénie. Mais néanmoins, tous les autres hommes confirment l'événement tel que je te le raconte. Par la suite, Valdez va être démis de ses fonctions, il va quitter l'armée, mais on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Cette histoire-là devient un peu une sorte de classique dans l'ufologie, l'histoire des ovnis au Chili, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Il y a quelques années encore, des journalistes ont retrouvé Valdez et il est resté excessivement, disons, nébuleux sur les circonstances de l'événement. Il raconte, oui, il y avait cette lumière, mais je me rappelle une des questions du journaliste, c'était « Est-ce que vous avez été enlevé ?» Il pose ouvertement la question. Valdez répond « Pas tout à fait, du moins pas dans le sens que vous l'entendez. » Il ajoute qu'à tout moment, il pouvait voir ces hommes, donc il n'a pas l'impression d'avoir disparu aux yeux de ces hommes, mais il refuse d'ajouter le moindre commentaire là-dessus, promettant, et ça c'est ce qu'il avait fait il y a quelques années, il dit « Je vais écrire un livre dans lequel je vais raconter toute cette histoire. »
Ça fait 41 ans, là.
Et inutile de te dire qu'aujourd'hui, l'événement date de 1977. Aujourd'hui, on est en 2018, 41 ans plus tard. On attend toujours le livre du caporal Armando Valdez et on n'a pas donc le fin mot de l'histoire. C'est assez nébuleux, cette histoire-là, mais elle est quand même devenue un classique dans le milieu des ovnis parce que tu comprendras que pour les amateurs de fantastique, ce voyage dans la lumière et cette espèce de transfert dans le temps qui fait passer 15 minutes à 5 jours, voilà qu'il y a de quoi à faire réfléchir sur les mythes de l'espace-temps.
Autre élément, Madame Lalaurie.
Ah, Madame Delphine Lalaurie, une histoire tout à fait incroyable. Nous commençons d'abord par un incendie. Nous sommes le 10 avril 1834. On est sur la rue Royale, dans le vieux quartier français à la Nouvelle-Orléans. Donc, les sapeurs, là, d'abord, évidemment, il faut le dire, la maison de Madame Lalaurie est l'une des maisons les plus cossues du quartier français. Et Madame Lalaurie, elle est bien connue de ses voisins, bien connue du quartier elle-même. En fait, elle organise régulièrement des soirées. C'est même bon d'être vue aux soirées huppées de chez Madame Lalaurie. Madame Lalaurie qui a épousé un médecin, Louis Lalaurie. Donc, c'est bien d'apparaître aux soirées de Madame
Lalaurie. C'est comme les parties de Guy Laliberté il y a quelques années.
Un peu, oui. Et là, chez Madame Lalaurie, bon, bien sûr, certains, il y a des rumeurs qui circulent à ce moment-là que Madame Lalaurie serait peut-être un peu vindicatif avec ses esclaves. Faut savoir que c'est l'époque où on avait encore des esclaves. Certains d'entre eux semblent disparaître, mais quand on pose des questions à Madame Lalaurie, elle dit simplement qu'ils sont partis dans leur famille ou qu'elle les a affranchis. C'est quand même surprenant. Faut dire qu'un an plus tôt, donc on parle de notre incendie en 1834, mais en 1833, des témoins avait vu Madame Lalaurie poursuivre jusque sur la toiture une fillette de 12 ans, une jeune fille noire, qui était tombée dans la cour arrière, qui était morte. Et Madame Lalaurie, sans d'autre préambule, s'est simplement contentée de jeter le corps dans un des puits. Et merci, bonsoir. C'est vrai que c'est vrai qu'à cette époque, on avait un peu le droit presque de vie ou de mort sur nos esclaves, même si officiellement, la loi interdisait de mutiler ou de tuer ses esclaves. Donc, Madame Lalaurie s'en tire toujours un peu parce qu'elle fait partie de cette haute bourgeoisie. Et voilà qu'on revient à ce feu du 10 avril 1834. On arrive autour de la maison. Madame Lalaurie, son mari sont en train de sortir les objets coûteux de la maison. Ils ont des collections de peinture, ils ont des meubles signés. Elle dit aux gens, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus âme qui vive dans la maison. Mais quand même, les sapeurs-pompiers décident d'entrer dans la maison. Ils entrent et là, rapidement, ils vont éteindre les flammes. Et ce qu'ils vont constater, c'est qu'il y a une femme noire qui est enchaînée à la cuisinière. En fait, un poêle qui est dans la cuisine. Elle est enchaînée là. Et elle raconte que c'est elle qui a mis le feu dans la maison pour se libérer du joug de Madame Lalaurie. Et une fois libérée, elle va conduire les sapeurs-pompiers dans une espèce de pièce dérobée qui se trouve au-dessus de la cuisine, juste en fait, dans le quartier des esclaves. Et là, par cette petite porte dérobée, on entre dans ce qui est le laboratoire de Madame Lalaurie. Donc, on va trouver 7 esclaves, 3 femmes, 4 hommes, enchaînés. Dans quel état? Il faut dire, Mathieu, que les journaux de l'époque ont été excessivement avares de commentaires. Ils étaient horrifiés de ce qu'ils voyaient. Les journaux disaient les conditions dans lesquelles ces gens-là étaient si monstrueuses qu'il nous est interdit de l'écrire. On se refuse, moralement, on ne peut pas écrire ce qui se passait là.
Et là, tu parles d'un laboratoire, donc.
Un laboratoire de Madame Lalaurie, parce que éventuellement la rumeur va se mettre à circuler. Madame Lalaurie était une espèce de docteur Frankenstein en jupon. Apparemment, elle se serait adonnée à des vivisections dans son laboratoire. Elle aurait pris, par exemple, des esclaves auxquels elle aurait brisé tous les membres pour ensuite les placer dans des espèces de cages pour voir comment les os allaient se ressouder créant des espèces de crabes humains. Elle introduisait, elle aurait tenté toutes sortes d'expériences mystérieuses sur ces gens-là, introduisant, par exemple, des insectes dans leur chair pour voir comment les insectes allaient pondre des œufs et comment les larves allaient se
Là, tu parles de rumeurs, mais c'est...
Voilà, là, on dit qu'elle est également qu'elle aurait cousu la bouche de certains esclaves. Elle aurait même retiré leurs intestins qu'elle aurait agrafés autour de leur corps. Donc, on voit des histoires
tout à fait
épouvantables. Ouais. Des esclaves que l'on sait officiellement... Les esclaves sont transférés dans un hôpital pour indigents, le Cabildo qu'on appelle à l'époque. Et là, évidemment, une vindicte populaire s'organise autour de la maison de Madame Lalaurie, qui, elle, s'y trouve réfugiée avec son mari et ses enfants. Et ils savent très bien qu'ils ne pourront pas contenir ce siège très longtemps. On commence déjà à lancer des pierres contre les murs, contre les fenêtres. Et Madame Lalaurie, son mari et ses enfants vont finalement réussir à fuir à bord d'une calèche. Ils vont gagner éventuellement l'Alabama et de là s'embarquer pour l'Europe, où elle va finir ses jours à Paris. Qu'en était-il exactement des rumeurs concernant Madame Lalaurie? Moi, j'ai fait quelques recherches là-dessus et ce que j'ai découvert, en fait, il semble qu'on ait beaucoup exagéré les expériences de Madame Lalaurie. Les rapports judiciaires parlent d'esclaves qui étaient retenus prisonniers, qui étaient affamés, auxquels on refusait de donner de l'eau. Certains étaient avaient des blessures qui s'étaient infectées avec des asticots. Ils avaient autour de leur cou des espèces de colliers avec des pointes acérées en métal qui les obligeaient à garder la tête levée. Donc, tu vois un peu, genre, des maltraitances au superlatif, mais je pense que les expériences du docteur, de Madame Lalaurie, est devenue un peu folklorique. Quoi qu'il en soit, cette Madame Lalaurie, comme je te l'ai mentionné, elle a trouvé refuge à Paris avec sa famille. Elle est décédée le 7 décembre 1849. Elle avait 64 ans. De son vivant, elle n'a jamais remis les pieds à la Nouvelle-Orléans parce que, évidemment, il y aurait eu arrestation et procès pour ses maltraitances. Et après son décès, elle a été enterrée au cimetière Montmartre. Et on a éventuellement déterré Madame Lalaurie en 1851 à la demande de ses enfants. On l'a ramenée en toute discrétion à la Nouvelle-Orléans où elle est enterrée dans le cimetière Saint-Louis I. Ah. On sait que les cimetières sont Saint-Louis 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si tu as déjà été à la Nouvelle-Orléans.
Non, jamais.
Le cimetière Saint-Louis I, c'est là où se trouve, pour les gens qui nous écoutent, la fameuse tombe de... Il y a une espèce de sorcière, et donc c'est qui pratiquait le vaudou, la reine des sorcières vaudou. Donc, elle se trouve dans le cimetière Lalaurie, le cimetière Saint-Louis I. C'est là que Madame Lalaurie a également été enterrée.
Christian Page, avant de te laisser, je veux qu'on se parle aussi, avant de parler de ton poisson d'avril, ça, ce n'en est pas un. Le 21 avril prochain, tu es en conférence au Centre Roussin.
Oui, effectivement. Et justement, on parlait de Madame Lalaurie, mais j'entretiendrai les gens. Ce sera une conférence sur les grandes énigmes de l'histoire, les grandes énigmes de l'histoire qui me passionnent. J'y aborderai 4 thématiques principales, qui seront notamment la comtesse Erzsébet Báthory, dite comtesse de sang, qui, selon la légende, se baignait dans le sang de ses esclaves et de ses servantes pour pouvoir conserver éternellement sa jouvence. Il sera également question de la célèbre affaire de Roswell, donc cet écrasement aux États-Unis en 1947. Est-ce que oui ou non, une soucoupe volante s'est écrasée dans le désert? Donc, un bilan entier de tout ça. On va également parler du célèbre suaire de Turin, dont on parle souvent. Et je vais te parler également de l'occultisme nazi. Est-ce que oui ou non, les forces du Troisième Reich ont été construites sur des préoccupations occultes? Donc, tout ça, le 21 avril prochain, au Centre Roussin. Les informations se trouvent sur mon site web, le www.christianpage.ca.
Bon, c'est quoi, selon toi, le plus célèbre poisson d'avril de tous les temps?
Dans le cas du paranormal, le plus célèbre poisson d'avril apparaît en fait dans les journaux le 21 avril 1934. Il s'agit d'une photographie qui montre le monstre du Loch Ness. Sans aucun doute, une photo que nos auditeurs ont vue. On voit une espèce de dos à la surface de l'eau, un long cou qui sort de l'eau. Cette photographie est présentée dans le London Daily Mail, comme je l'ai mentionné, le 21 avril 1934. Elle est présentée comme la photographie d'un certain docteur Wilson, que l'on dit chirurgien. En réalité, c'est un gynécologue, mais pour, tu comprends, des raisons éthiques, on ne mentionne pas qu'il est gynécologue. Et en fait, la photographie est un canular. Il faudra attendre 1993, donc
quand même,
pratiquement 60 ans après l'événement, pour savoir ce qui s'est passé. En fait, ce sont un groupe de gens qui ont décidé de faire un canular sur le monstre du Loch Ness, dont on parlait abondamment à l'époque. Ils ont utilisé un petit sous-marin jouet. Ils avaient demandé à un modéliste de mettre une espèce de coup par-dessus le sous-marin. On l'a placé dans les eaux du Loch Ness et le temps que le sous-marin coule, on a eu le temps de prendre 2 ou 3 photographies du dit sous-marin avec le cou du monstre. Et là, on avait besoin maintenant d'une caution morale. Les photographies ont été confiées à un ami du groupe, le docteur Wilson, qui jouissait bien sûr d'une excellente réputation. Et les photographies ont été prises le 1er avril. Et le docteur Wilson ne s'en est pas caché. Donc, les photographies sous le bras, prises par ses compagnons, ses joyeux lurons, il se présente au bureau du London Daily Mail, remet les photographies. Évidemment, il va utiliser cette caution. Je suis un médecin, je suis
membre
un homme
du Collège
sérieux.
Royal.
Voilà. Et le 1er avril dernier, il glisse même le 1er avril dernier, je me trouvais sur les bords du Loch Ness, j'ai photographié le monstre et cette photographie est publiée. Comme je l'ai mentionné, l'histoire sera découverte en 1993, lorsque pratiquement sur son lit de mort, l'un des joyeux lurons va raconter comment tout ça s'est fait. Mais encore aujourd'hui, en 2018...
Ça se promène encore.
Dès qu'on parle du monstre du Loch Ness, invariablement, c'est cette fameuse photographie floue en noir et blanc qui montre ce cou qui sort de l'eau et qui nous est présentée comme la meilleure photographie du monstre du Loch Ness. Rien de plus qu'un bon canular du 1er avril 1934.
Christian Page, merci infiniment. Bonne semaine à toi.
Ben, merci beaucoup.
Et on se retrouve dimanche prochain.
Absolument.